Dom Théo. Dom Théo, un dialogue théologique avec les dominicains de Toulouse.
Frère Édouard, bonjour.
Bonjour, frère Philippe.
Nous avons parlé dans nos derniers entretiens de ce mystère de la mort de Jésus, la mort de Jésus sur la croix. Et je pense à cette affirmation, cette confession importante, nous prêchons un Messie crucifié dans la lettre aux Hébreux. Je me rends compte, nous en avons discuté, pas à l'antenne, mais ensemble, sur le fait qu'il est peut-être important de revenir un peu en arrière pour regarder l'article 576 du catéchisme qui va nous ouvrir une réflexion assez stimulante. « Aux yeux de beaucoup en Israël, je le lis, Jésus semble agir contre les institutions essentielles du peuple élu. » La soumission à la loi dans l'intégralité de ses préceptes écrits et pour les pharisiens dans l'interprétation de la tradition orale, donc premier point contre lequel il semble agir, le caractère central du temple de Jérusalem comme lieu saint où Dieu habite d'une manière privilégiée, deuxième point, et la foi dans le Dieu unique dont aucun homme ne peut partager la gloire, c'est le troisième point. Du coup, En lisant cela, ça nous renvoie à des questions qui serait intéressante de regarder. Est-ce que Jésus était conforme à la loi d'Israël dans ce mystère où s'accomplit notre salut dans sa mort sur la croix? Est-ce que sur la croix, c'était compréhensible pour les Juifs compte tenu de ce qu'est la loi? Ces questions-là méritent peut-être que nous nous y arrêtions.
Oui, de fait, pour un juif, c'est très difficile de comprendre la messianité de Jésus et de comprendre comment Jésus se situait par rapport à la loi. Par exemple, en Matthieu 5, Jésus dit « N'allez pas croire que je sois venu abolir la loi ou les prophètes, je ne suis pas venu abolir, mais accomplir ». Et il ajoute cette chose très exigeante, car je vous le dis en vérité, avant que ne passe le ciel et la terre, pas un « i », pas un point sur « l'i » ne passera de la loi que tout ne soit réalisé. Et Jésus réalise toute chose, c'est sur la croix. Et donc il y a vraiment, à la fois dans les paroles de Jésus, un grand désir de continuité, et de fait, nous l'avons, par exemple, dans les 10 commandements, les 10 commandements qui ont été donnés sur le mont Sinaï à Moïse, les deux tables de la loi sur lesquelles sont marquées les 10 paroles de vie, eh bien, Jésus les assume et Jésus les transmet à son Église. Il n'y a pas la moindre, je dirais, transformation dans la loi morale. La loi morale est la même, elle est même plutôt plus exigeante du côté de Jésus, puisque Jésus n'aura pas peur de dire « on vous a dit et moi je vous dis ». Donc il y a, du point de vue de la loi, certainement un désir de continuité. Et c'est du côté de la loi morale que l'on voit le plus la continuité, une continuité qui veut même revenir aux origines, au moment de la Genèse, au commencement. Il n'en était pas ainsi quand les Juifs lui parlent de la possibilité de divorcer, de s'autoriser des divorces dans certaines conditions. Eh bien, Jésus dit « il n'en était pas ainsi ». Donc, une exigence de la loi très grande dans sa continuité, mais en même temps, il y a une sorte de dépassement dans la façon de se situer, puisque, par exemple, il va dire que tous les aliments sont purs, alors que les Juifs observaient la cacheroute. Par exemple, en Matthieu 7, il nous est dit « Rien de ce qui pénètre du dehors dans l'homme ne peut le souiller. » Ainsi, il déclarait purs tous les aliments. Ce qui sort de l'homme, voilà ce qui souille l'homme, car c'est du dedans, du cœur des hommes, que sortent les desseins pervers. Jésus ramène cela à l'intériorité. Ce n'est pas seulement une loi extérieure, il faut remonter à une intériorité, c'est au 582. Et donc, du coup, il y a vraiment l'affirmation d'un dépassement. Et de ce point de vue-là, l'Église va mettre en place progressivement une rupture d'étachement par rapport aux traditions juives, et on aura cela au moment de ce qu'on appelle le Concile de Jérusalem, où la communauté juive chrétienne, devenue chrétienne, se rassemblera pour savoir, dans le fond, qu'est-ce qu'il faut garder, qu'est-ce qu'il faut abandonner. Et la communauté chrétienne sera bien obligée, d'une certaine manière, d'organiser une certaine rupture, détachement par rapport à la communauté juive. On va admettre que les païens puissent rentrer dans le peuple de Dieu en ne suivant pas exactement les préceptes de la loi. Et puis, il va y avoir le sabbat, par exemple, la grande loi du sabbat, qui demandait que l'on reste absolument fidèle au repos sabbatique. Eh bien, la communauté chrétienne va le transférer au dimanche. Donc là aussi, il y a comme à la fois continuité dans le précepte, il faut bien se reposer pour Dieu, mais en même temps, il y a rupture, détachement, à cause d'un dépassement. C'est le huitième jour, c'est Jésus, ressuscité d'entre les morts, qui prime sur tous les préceptes de la loi ancienne. Donc on voit très bien le rythme qui est continuité, rupture, détachement, dépassement. Et on peut le voir pour le temple aussi. Le temple de Jérusalem, c'est la même chose. Jésus y est très fidèle. Dès les premières années de sa vie, on le voit qui quitte Marie et Joseph, qui sont synodalia, en route vers, dit le texte, vers Nazareth. Eh bien, Jésus n'est pas avec eux. Jésus n'est pas dans ce mouvement synodalia. Il préfère être au temple et il va discuter avec les chefs du temple en place. Il va rester avec eux en faisant remarquer à ses parents qu'il se doit aux affaires de son père, au 583. Donc, il semble marquer une plus grande continuité même que ses propres parents, avec le désir d'être au temple, d'être fidèle au temple. Et on dira de lui que le zèle pour la maison de Dieu le dévore. C'est ce que dit par exemple Jean 2, 16, 17, avec la déclaration de Jésus, « Ne faites pas de la maison de mon père une maison de commerce. » Et il est ajouté, ses disciples se rappelèrent qu'il est écrit, « Le zèle pour ta maison me dévorera. » Jean chapitre 2. Donc on sent bien en Jésus un très grand attachement au temple, mais il va en donner une signification complètement différente, puisque il va rattacher le temple à son propre corps. « Détruisez ce temple et en trois jours je le relèverai. » Jésus annonce la rupture avec le temple en prophétisant qu'un jour il sera détruit et qu'il faudra donc s'en détacher, même si les disciples au début ont été, avant la destruction du temple en 70, très fidèles. Il est dit qu'ils se rassemblent dans la partie du temple sous le portique de Salomon, et donc il y a vraiment un attachement à cette pratique, mais petit à petit, rupture d'étachement, la communauté chrétienne va avoir une prophétie, elle va fuir à Pella, et elle comprend que le temps du temple passe, comme toutes les figures d'ici-bas, et il faut ainsi s'en détacher. Tout cela à cause du dépassement, c'est Jésus qui est le vrai temple. Donc à chaque fois, on voit continuité, rupture d'étachement, dépassement. Et c'est vrai pour la foi d'Israël, le dernier paragraphe, la foi au Dieu unique. Jésus ne néglige jamais le schéma Israël. Écoute, le Seigneur ton Dieu, il y a vraiment une référence en Deutéronome 6 qui est sur la bouche de Jésus, mais en même temps, cette foi qui a été vivante, cette foi qui, dans le livre des Hébreux, de la lettre aux Hébreux, montre que les Juifs ont été animés de la même foi que nous, c'est cependant une foi qui n'est pas encore christo-conformée. C'est une foi qui est plus aveugle encore que la nôtre, puisqu'elle n'a pas atteint le mystère de la Trinité. C'est une foi vivante que la foi juive, donc il y a vraiment continuité. Par la foi, Abraham agit, par la foi, Moïse agit, par la foi, les ancêtres du Christ agissent dans le sens du dessein providentiel de Dieu, mais il leur manque encore la lumière définitive. Donc on voit encore, pour la foi, on peut dire que les Juifs ont la foi, mais une foi encore informelle du point de vue du Christ. Donc il y a bien continuité, et l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, nous le dit vraiment qu'il y a continuité. Continuité, mais déjà rupture d'étachement, puisque désormais, pour être dans le royaume, il faut être avec Jésus et croire en lui. Donc il y a vraiment un appel à ce que les pharisiens se convertissent, et on le voit dans les différents responsables de ceux qui étaient liés au premier temps de la communauté juive. Par exemple, le 595 nous donne de nombreux pharisiens qui finalement sont passés par cette continuité avec de la foi juive à la foi chrétienne, comme Nicodème, Joseph d'Arimathie. On nous dit aussi que un bon nombre de juifs crurent en lui, et finalement qu'une multitude de prêtres obéissaient à la foi, que plusieurs milliers de juifs ont embrassé la foi, et ce sont tous des ardents partisans de la loi, donc ils ne méprisaient pas la loi. Donc là aussi, on voit une foi vive chez les juifs, dans la continuité, dans la rupture d'étachement, et dans, je dirais, quelque chose qui est un dépassement total, puisque Jésus est vrai Dieu et vrai homme.
Nous avons peut-être tendance à en rester au dépassement total, mais il faut intégrer ces trois catégories.
Il faut quand même intégrer ces trois catégories pour être beaucoup plus juste par rapport à l'Écriture.
Merci, frère Édouard.